ville. Un grand anneau de 2 km de circonférence sur la baie d'Osaka, symbole de l'unité dans la diversité. David Barou nous emmène au pays du soleil levant dans son décryptage éco juste avant 8h.
Chaque heure compte. Passez à l'action avec Bougardier. Des financements sur mesure pour les audacieux, de l'hypothèque à la fiducie sûreté. Et c'est sur bougardier.fr.
Lundi 14 avril 2025, il est 7h sur Radio Classique.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et Virginie Fulpin pour le journal. Bonjour Virginie.
Bonjour Marc, bonjour à tous. C'est la pire attaque russe en Ukraine depuis des mois. 34 morts, une centaine de blessés à Soumy dans le nord-est du pays. La communauté internationale condamne et les États-Unis sont sommés d'agir. La guerre commerciale et ses répliques. Donald Trump joue de la surtaxe. L'Europe cherche de nouveaux partenaires. Alors comment la France peut-elle être écoutée en rejetant l'accord avec le Mercosur? Et puis que vaut un souvenir des Jeux de Paris 2024? Près de 230 000 euros, c'est ce qu'a rapporté la vente aux enchères organisée hier.
Donald Trump rattrapé par la réalité après son blitzkrieg commercial. L'édito écho de François Vidal, des coups de semonce tarifaires et après Antoine Bouet, directeur du Centre d'études prospectives et d'information internationale, la voix de l'économie à 7h15. À la une, Virginie, une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid ouvre aujourd'hui.
Le Covid, ça existe encore. Ça peut nous sembler loin. Maintenant, 5 ans après notre premier confinement, la nouvelle campagne s'adresse aux personnes âgées et vulnérables. Et c'est l'occasion de faire un point, Rémi Fister. Où en est-on de la circulation du Covid-19?
Un indicateur important à regarder, l'analyse des eaux usées. Le Covid-19 s'y trouve encore et sa présence a même augmenté de 4% en un mois. Le virus circule, mais la maladie passe en grande majorité inaperçue du fait de l'immunité de la population. Pour autant, ce virus reste encore très agressif chez certains patients, notamment chez les personnes de plus de 65 ans et celles immunodéprimées. Chaque semaine, environ une centaine sont admis en réanimation pour une détresse respiratoire, un chiffre qui reste stable depuis septembre dernier. Des cas graves qui auraient pu être évités grâce à la vaccination, martèlent les médecins, seulement 30% des personnes fragiles ont fait l'injection de rappel au début de l'automne dernier. Cette campagne s'adresse donc à eux, mais également aux femmes enceintes. Tout comme la grippe, une atteinte virale au dernier mois de grossesse peut entraîner une fausse couche. Pour le moment, 200 000 doses sont déjà dans les pharmacies. Les personnes prioritaires ont jusqu'au 14 juin pour réaliser l'injection gratuitement.
Les États membres de l'Organisation mondiale de la santé ont trouvé un accord de principe ce week-end pour mieux protéger le monde de futures pandémies. Le texte doit encore être ratifié le mois prochain. Marc, vous allez parler de tout ça avec votre invité à 8h15 sur Radio Classique, le spécialiste d'immunologie Alain Fischer.
À la une également, Virginie, la communauté internationale condamne unanimement l'attaque russe à Soumy en Ukraine.
Sous le choc, ce sont les mots du secrétaire général de l'ONU après le bombardement qui a fait au moins 34 morts et une centaine de blessés dans la ville du nord-est du pays. L'attaque la plus meurtrière depuis des mois en Ukraine, en pleine tractation pour une trêve sous l'égide des États-Unis. Tetiana Ogarkova est la journaliste responsable du département international de l'ONG Ukraine Crisis Media. Pour elle, cette attaque meurtrière est la preuve que Vladimir Poutine n'a que faire des négociations.
Poutine, il ne va pas s'arrêter parce que son projet initial, c'est la disparition de l'Ukraine de la carte politique du monde. Sur le fond de négociation, la Russie continue à attaquer l'Ukraine en démontrant qu'elle est capable de continuer cette guerre. Donc, il utilise les négociations pour sortir des isolements diplomatiques, économiques, en cédant rien, justement, dans son projet initial contre l'Ukraine. C'est-à-dire qu'ils vont continuer jusqu'au moment où ils y arrivent. Et pour l'arrêter, il faudrait lui proposer davantage.
Tetiana Ogarkova répondait à Régine Ralech. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, appelle Donald Trump à venir voir la guerre en Ukraine pour constater les dégâts de l'agression russe. Chloé Sénard, les Américains se retrouvent sommés d'agir.
Pour le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, cette attaque est un rappel brutal de l'impératif de négocier pour mettre fin à cette terrible guerre. Mais depuis mars, c'est la proposition des États-Unis d'un cessez-le-feu inconditionnel accepté par Kiev. La Russie attaque l'Ukraine sans relâche. Pas plus tard qu'il y a deux semaine, une frappe d'ampleur à Kryvyi dans le centre du pays a fait au moins 18 morts, dont 9 enfants. Cette fois-ci, l'attaque survient 2 jours après la rencontre de l'émissaire américain Steve Witkoff avec Vladimir Poutine en Russie, leur 3e entretien depuis février. La méthode ne semble pas fonctionner, ce qui provoque l'agacement de Donald Trump. Il y a quelques jours, le président américain a appelé les Russes à cesser de bombarder comme des fous. De son côté, l'Ukraine accuse la Russie de faire traîner les pourparlers Poutine n'a jamais voulu arrêter la guerre, il n'a jamais voulu que nous soyons indépendants. Poutine veut nous détruire complètement, a déclaré Volodymyr Zelensky.
Merci Chloé Sénard. L'état-major ukrainien promet une riposte après cette attaque de Soumy. À Gaza, c'est un bombardement israélien qui a mis à l'arrêt un des rares hôpitaux encore en fonction. Un enfant est mort à cause de l'interruption des soins provoqués par cette frappe, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Israël assure que l'hôpital était utilisé comme base arrière par le Hamas, ce que dément l'organisation terroriste. Donald Trump continue à jouer au yo-yo avec ses droits de douane. Le président américain prévient, aucun pays n'est tiré d'affaire. D'ailleurs, il annoncera dans la semaine des surtaxes sur les semi-conducteurs, alors qu'hier, il exemptait de ces surtaxes les produits technologiques comme les smartphones.
À 7h05 sur Radio Classique, la guerre commerciale menée par les États-Unis contre le reste du monde oblige l'Union européenne à chercher des alternatives, Virginie.
Comme des accords de libre-échange avec d'autres zones, le gouvernement français reste opposé à l'accord commercial entre l'Europe et le Mercosur. Mais dans ce contexte, sa position pourrait être fragilisée, Victoire Fort.
Ce n'est absolument pas le moment de baisser la garde et d'importer du bœuf aux hormones, pointe Dominique Chargé, président de la coopération agricole. La France ne souhaite pas revenir sur ses exigences. Pas d'accord Mercosur tant que les pays producteurs sud-américains ne sont pas soumis aux mêmes normes. Mais pour les Européens en faveur de la ratification, par exemple l'Italie ou l'Allemagne, le marché sud-américain est devenu une porte de sortie pour leurs industries, alors que les États-Unis leur claquent la porte. Ces pays risquent d'accélérer la pression et déjà les équilibres bougent. L'Autriche était contre le Mercosur, volte-face depuis les annonces de Donald Trump. C'est une partie d'échec où il faut avoir 4 coups d'avance, souffle un parlementaire proche du dossier. Le risque, c'est que les stratégies nationales, État membre par État membre, se multiplient, explique Thierry Pouche, économiste. L'Espagne envisage de nouer des relations commerciales avec le Vietnam, poursuit-il. L'Europe en ordre dispersé, et la France affaiblie dans sa recherche de minorités de blocage.
Des rayons vides dans les supermarchés en Guyane et aux Antilles, des pénuries sur les produits frais, l'alimentation animale, mais aussi les matériaux de construction à cause de mouvements sociaux à Trinidad et Tobago et dans les ports de l'Hexagone qui perturbent les échanges. Il y a une dépendance qu'il faut corriger, estime Jean-Claude Florentini, secrétaire général du groupement des importateurs antillais.
80 voire 85% des biens qui sont consommés aux Antilles et en Guyane proviennent de l'extérieur. Donc en fait, il y a une dépendance aux importations. Dès qu'il y a un mouvement, que ce soit un mouvement social ou une situation particulière dans l'Hexagone, l'impact est direct pour nous sur les Antilles-Guyane. Il faudrait en fait une régionalisation et des accords sur nos zones, quoi. Donc la mise en place d'une agence, pourquoi pas, de normalisation des produits de façon à ce que les Antilles françaises puissent commercer avec leurs voisins immédiats, que ce soit au niveau de la Guyane, au niveau du Brésil, du Suriname, Guyana, et pour les Antilles françaises, c'est un petit peu la même chose, hein, avec des produits nord-américains ou d'Amérique du Sud.
Jean-Claude Florentini répondait à Lucie Dupressoir. On sait à quoi s'en tenir, il va falloir faire un effort considérable. Les mots sont du ministre de l'économie Éric Lombard. Si on veut tenir le déficit à 4,6% du PIB comme prévu, il faudra trouver entre 40 et 50 milliards d'économies l'année prochaine. Une vingtaine de soignants attaquent en justice Catherine Vautrin et Elisabeth Borne. C'est une information du journal Le Monde. Une plainte après des suicides à l'hôpital. Les soignants attaquent les ministres de la Santé et de l'Éducation pour harcèlement moral et homicides involontaires. Ils les jugent responsables de conditions de travail dégradées dans les hôpitaux. Que reste-t-il de nos Jeux de Paris 2024? Des souvenirs, des objets, 200 objets mis en vente lors d'enchères hier au stade Charletti. Nina Valette, vous avez assisté à l'événement. Le Musée national du sport s'est mobilisé pour éviter que cet héritage ne disparaisse dans le monde entier.
D'un discret hochement de la tête.
Preneur ici.
Nicolas vient de s'offrir le costume et la tête du mime Marceau, visible lors de la cérémonie d'ouverture. Il vient de dépenser un peu plus de 1000 euros.
Morceau d'histoire à plusieurs titres, celui du mime Marceau, de cette cérémonie très artistique. Très belle pièce, ouais. Et là, il y a eu une faille dans la vente. C'était pas numéroté au catalogue, ils ont pas pu le préempter. Donc...
Un soulagement, vous l'entendez, pour ce collectionneur du centre de la France. Marie Grasse, la directrice du Musée national du sport à Nice, ne s'est pas imposée avec cette petite phrase que redoutent tous les acheteurs.
Préemption de l'État au bénéfice du Musée national du sport, merci.
Représentante d'un musée national, elle est en effet prioritaire en fin d'enchère.
C'est dommage d'être obligée de faire préemption pour... préserver le patrimoine commun à tous. Peu de vestiges de 1924. Donc, fort de cette expérience, on s'est dit qu'il fallait quand même avoir des souvenirs de 2024.
Sur les 200 lots de cette vente aux enchères, une quarantaine vont donc prendre la route des Alpes-Maritimes Costumes de Marie-Antoinette, BMX, décors en tout genre, toutes ces pièces des Jeux de Paris 2024 seront visibles au Musée national du sport à Nice. Une salle entière sera dédiée à cet événement à partir de 2026.
Sa médaille, il ne l'a pas achetée aux enchères, mais remportée en courant. Notre rédacteur en chef adjoint à Radio Classique, Rémi Vallès, a terminé le marathon de Paris en 3h11 hier. Bravo donc de toute la rédaction.
Mais évidemment, puisqu'il nous faut combien pour 42 km ? 3 jours et 11 heures à peu près. Virginie Fulpin. C'est à peu près cet ordre-là. C'était le journal de Virginie Fulpin. À tout à l'heure, 8 heures. Dans un instant, les smartphones épargnés par la guerre des droits de douane. Aveu d'échec de Donald Trump dans l'édito écho de François Vidal. Radio Classique, 7h10.
Et si le meilleur de l'intelligence artificielle était au service de votre métier ? Cegid innove pour élever la performance des entreprises et leur permettre de préparer l'avenir avec confiance. Chaque mercredi à 7h59 sur Radio Classique, retrouvez les dernières innovations pour la gestion d'entreprise avec Cegid et Fabrice Lundy.
Le plus grand événement des solutions pour la planète arrive à Paris. Change Now transforme le Grand Palais en exposition universelle des solutions durables. 3 jours de conférences, de rencontres inspirantes et 1000 innovations à découvrir. Le samedi, Job Fair, atelier famille, fresques et art pour tous. Entrez dans un monde durable à Change Now du 24 au 26 avril. Informations et réservations sur changenow.world.
Madame Figaro, spécial déco est en kiosque. On s'évade et on prend la direction de Minorque ou encore du Brésil pour des escapades dans des maisons de rêve. Partez à la rencontre des jeunes designers français qui comptent et toujours toutes les nouveautés et les tendances du moment. Madame Figaro spécial déco, en vente actuellement. Renault.
Tous les hybrides ne se valent pas. Choisir la motorisation Renault Full Hybrid E-Tech sans recharge, c'est choisir la technologie Full Hybrid numéro 1 des ventes en France. C'est jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein. C'est rouler jusqu'à 130 km/h en électrique et faire jusqu'à 40% d'économie de carburant. C'est une gamme complète de 7 modèles Renault Full Hybrid E-Tech, comme par exemple Clio, Symbiose, Austral ou Rafale.
En 2024, source 3A Data, selon version et conduite, économie versus moteur thermique, voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
7h12, l'heure de l'éditorial de l'économie avec le journal Les Échos et François Vidal. Bonjour François.
Bonjour Marc.
Dans l'actualité ce matin, les droits de douane de Donald Trump qui revient donc sur les smartphones et les ordinateurs.
Oui, une concession mais aussi peut-être avant tout un aveu. Hein, en décidant d'exclure les produits électroniques de sa blitzkrieg commerciale pour le moment, le président américain reconnaît implicitement que sa politique va-t-en-guerre risque de faire trop de dégâts sur l'économie de son propre pays. Il espère ainsi en limiter les effets inflationnistes sur des produits très populaires. Il offre aussi un bol d'air à Wall Street, puisque les actions des stars de la tech figurent en tête du palmarès des plus fortes baisses depuis le fameux Liberation Day du 2 avril. Mais cette décision souligne aussi en creux le caractère irréaliste d'une politique qui vise à relocaliser rapidement aux États-Unis des industries au savoir-faire complexe et dans lesquelles les coûts de main-d'œuvre restent une composante importante.
Et c'est en tout cas une très bonne nouvelle pour Pékin, François.
Ah oui, c'est sûr, hein, avec cette exemption. Washington vient de réduire de plusieurs crans l'intensité du bras de fer engagé entre les deux rives du Pacifique, car les smartphones et les ordinateurs pèsent très lourd dans les échanges entre les deux pays, 100 milliards au total, soit un quart des importations chinoises. De quoi donner raison à Pékin, où on estime qu'à 145%, les droits de douane américains sur les produits en provenance de Chine n'ont plus de sens. Mais en attendant que l'administration Trump prenne pleinement conscience du niveau de dépendance de l'économie américaine, les dirigeants chinois ne restent pas l'arme au pied. Pour s'ouvrir de nouveaux marchés, ils multiplient les contacts avec leurs voisins asiatiques, y compris d'ailleurs le Japon et la Corée du Sud, alliés historiques des États-Unis. Ils jouent aussi sur la parité de leur monnaie, le yuan, pour doper la compétitivité de leurs produits. Et si cela ne devait pas suffire, il leur restera l'arme de la dette américaine, dont ils possèdent quelques 1000 milliards de dollars et dont on sait depuis la semaine dernière qu'elle constitue le talon d'Achille des États-Unis dans la guerre commerciale.
L'édito écho de François Vidal du journal Les Échos. Merci François et bonne journée à demain. 7h14, tout de suite l'essentiel de l'économie sur Radio Classique. Et à la une, de nouveaux droits de douane annoncés cette semaine par Donald Trump. Ils concerneront les semi-conducteurs jusque-là exemptés. Aucun pays n'est tiré d'affaire, avertit le président américain. Le commissaire européen au commerce est aujourd'hui à Washington pour entamer les négociations. Une tournée en Asie du Sud-Est. Le président chinois Xi Jinping est au Vietnam aujourd'hui avant de se rendre en Malaisie et au Cambodge. Avec un message, la Chine est un partenaire stable, pas comme les États-Unis. Et puis un effort considérable pour le budget 2026. Il faudra trouver 40 à 50 milliards d'euros. Ce sera principalement des baisses de dépenses, selon le ministre de l'Économie Éric Lombard. Il exclut des hausses d'impôts, mais veut pérenniser la contribution sur les hauts revenus. 7h15 sur Radio Classique. Dans un instant, les voix de l'économie. Antoine Bouette, directeur du CPI, l'invité de Charles Bonner.
Myriam a 60 ans, elle est chef d'entreprise. Déjà propriétaire à Paris, elle rêvait d'un chalet dans les Alpes. Alors, pour dégager de la trésorerie, Myriam a souscrit un prêt hypothécaire in fine auprès du cabinet Bougardier. Elle ne paye que les intérêts pendant 7 ans maximum, avant de rembourser le capital. Ça tombe bien, elle comptait justement vendre sa société dans 7 ans. Comme pour Myriam, au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et à 7h15, les voix de l'économie, Charles Bonner, votre invité ce matin, directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales.
Bonjour Antoine Bouet.
Bonjour
et bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes en direct depuis Bordeaux. Le choc des droits de douane se fait toujours ressentir malgré la pause de 90 jours. C'est donc juste une accalmie.
Oui, peut-être plus quand même, parce que c'est quand même un aveu de faiblesse qui s'est passé en fin de semaine dernière sur les marchés financiers. C'est ce qu'on peut peut-être appeler une fuite de capitaux hors des États-Unis, avec une dépréciation du dollar assez forte quand même, de 10% environ, et puis les obligations américaines, les fameux bons du Trésor, qui ont perdu 50 points de base. Donc il y avait manifestement même une fuite hors de à peu près tous les actifs américains. Donc il y a eu une sanction un petit peu des marchés financiers vis-à-vis de la politique un petit peu incontrôlable de Donald Trump.
C'est donc ça l'explication de ce recul, puisqu'il y en a eu d'autres sur les produits de technologie, les téléphones, les ordinateurs également.
Alors, sur l'électronique, etc., je crois que, et la high-tech, en fait, il y a un geste qui est fait, il me semble, vers les sociétés américaines high-tech. Donc, c'est des gens qui sont dans le centre de Donald Trump, manifestement. Et puis, il y a peut-être un pas vers la Chine en disant il y a des moyens, justement, d'ouvrir la porte pour que, en fait, les deux pays se calment un petit peu dans cette guerre commerciale et trouvent au moins les voies d'une discussion future, mais il faut être très prudent à cet égard.
Et on a vu les patrons de ces entreprises de la tech qui ont soutenu Donald Trump, qui était présent le jour de son investiture. Ce sont donc eux qui ont une influence sur Donald Trump ?
Oui, manifestement. En fait, il y a une combinaison d'éléments à partir d'un président qui a manifestement un comportement très erratique, qui prend des décisions un petit peu tout seul à l'emporte-pièce. Et derrière, il y a effectivement un ensemble de facteurs qui le ramènent relativement à la raison, parce que ça reste quand même un petit peu chaotique tout ceci.
Il y a donc une pause 90 jours qui concerne l'Europe, qui a toujours des droits de douane à hauteur de 10%. Sur quoi peut négocier l'Europe ?
Alors, il y a trois décisions protectionnistes qui ont sanctionné un petit peu l'Union européenne et qui ont été des prises de décision de la part des États-Unis. D'abord, des droits de douane sur l'acier et l'aluminium, puis des droits de douane sur l'automobile, et puis ces fameux réciprocal tarifs qui sont aujourd'hui de 10%, mais qui pourraient être de 20% si on revenait au réciprocal tarif. Mm-hmm. Donc, ce qu'a fait en fait l'Union européenne pour l'instant, elle prend les choses dans l'ordre, et donc la première décision, c'était l'acier et l'aluminium. Elle a publié une liste de produits qui pourraient faire l'objet de représailles européennes, donc des importations américaines qui seraient sanctionnées par des droits de douane européens. Elle a choisi en fait un montant d'importation un petit peu inférieur à la liste, au montant d'exportation européenne qui était touchée par les droits de douane américains. Et en ce sens, elle veut dire « j'évite la surenchère ». je sanctionne, mais j'évite la surenchère. Et je trouve que c'est assez sage. Et puis en plus, elle prend les choses dans l'ordre. Donc je trouve que, en plus avec cette pause, elle a peut-être les moyens de parvenir à ses fins, c'est-à-dire d'éviter la guerre commerciale.
Antoine Bouet, ça c'est pour la riposte, mais alors pour la négociation, il suffirait juste d'acheter un petit peu plus de pétrole et de gaz américain ?
Ben, j'espère que ça ne se limitera pas à ça, parce que ce sont des accords sur des produits, des promesses d'achat supérieures à ce qui se fait spontanément. Ce sont des promesses qui ne sont pas tenues. On l'a vu, par exemple, en 2019, lors du premier mandat Trump avec l'Union européenne, mais surtout avec la Chine. Je pense que ça pourrait ressurgir, ces velléités protectionnistes, très vite de la part des États-Unis. Donc, je pense qu'il y a plus, peut-être, la possibilité d'un accord. Peut-être un accord industriel. Dans l'industrie, 0% de droits de douane des deux côtés. C'est pas très très difficile à atteindre, tout simplement parce que les droits de douane sur les produits industriels des deux côtés de l'Atlantique sont déjà assez bas. Et puis ça permettrait peut-être effectivement de susciter du commerce et de la croissance.
S'il y a bien un secteur sur lequel les États-Unis sont bénéficiaires vis-à-vis de l'Union européenne, ce sont les sociétés digitales, les réseaux sociaux notamment. Est-ce que c'est ça qu'il faut taxer? C'est ce qu'envisage d'ailleurs la Commission européenne. C'est la meilleure manière d'attaquer les États-Unis ?
C'est un problème politique qui est très difficile et donc des décisions qui sont difficiles à prendre, tout simplement parce que, si vous voulez, le problème, c'est que le flux d'exportation des États-Unis vers l'Europe est beaucoup plus faible que le flux d'exportation de l'Europe vers les États-Unis. C'est pour ça qu'il y a un déficit américain vis-à-vis de l'Europe sur les biens. Par contre, effectivement, il y a un flux sur les services qui est beaucoup plus important. Alors, en même temps, si vous voulez, donc, si on essaye d'avoir une représaille proportionnée, il va peut-être falloir toucher les services. Mais en même temps, c'est un petit peu ouvrir la boîte de Pandore et, investir des nouveaux sujets de taxes qui pourraient être difficiles un petit peu à contrôler. Ça pourrait être la propriété intellectuelle, ça pourrait être les marchés publics, ça pourrait être les services. Et là, ça devient un petit peu aventureux. Donc moi, je préférerais qu'on se réserve sur les marchandises, mais on va peut-être être obligé de taxer aussi sur les services.
On voit que l'image des États-Unis est en train de changer. Est-ce qu'on peut toujours considérer que les États-Unis sont un partenaire fiable ?
Alors, je trouve que c'est assez difficile, en tout cas avec cette administration, avec un contrôle fort sur les deux chambres aux États-Unis. Il pourrait y avoir effectivement un changement de majorité aux élections de mi-mandat en novembre 2026. Je ne sais pas, parce que les démocrates finalement ont montré qu'ils étaient aussi protectionnistes, même s'ils n'ont pas amplifié pendant le mandat de Biden. Et puis, ils ont réélu Donald Trump. Donc ça, c'est un signal grave de la part de ce pays.
A contrario, la Chine a l'air d'être un pays plutôt stable. Est-ce que ce n'est pas vers elle qu'il faut se tourner, négocier directement un accord avec la Chine ?
Alors la question se pose tout simplement parce que la Chine en fait a besoin d'avoir des collaborations internationales, des coopérations internationales. Évidemment, c'est un pays qui n'a pas les mêmes valeurs que l'Union européenne, mais en même temps, en ce moment, il y a un risque effectivement de déversement des produits chinois qui n'iront pas vers les États-Unis, vers d'autres destinations, dont l'Europe. Mais d'un autre côté, il ne faudrait pas que l'Europe se ferme avec des droits de douane aux produits chinois, ce qui pourrait être une réaction spontanée. Et puis l'Union européenne pourrait considérer des investissements chinois avec des transferts de technologie. C'est ce qui pourrait intéresser l'Union européenne.
Merci Antoine Bouet. Justement, mieux se protéger des produits chinois, on va revenir dans le journal de 8h de Virginie Fulpin. Antoine Bouet, le directeur du CEPI, invité des Voix de l'économie.
Oui, merci à tous les deux. La matinale de l'économie revient demain dès 6h. Dans deux minutes, François Bayrou au pied de son Himalaya budgétaire dans les coulisses de la politique de Marcelo Westfred. Avant cela, le bon usage avec Karine Dijoux. Bonjour Karine.
Bonjour Marc.
Alors une question ce matin, une question cruciale, avec ou sans trait d'union ?
Très bonne question. Le trait d'union est un signe typographique qui permet, entre autres, de lier deux mots et de créer des mots composés. C'est ce qu'indique ce joli nom. C'est un tiret en revanche quand il sert à établir une liste ou à introduire une réplique. il n'est jamais évident de savoir s'il faut mettre un trait d'union. Des règles existent en la matière, mais elles ne sont pas infaillibles, donc en cas de doute, il faut toujours se référer au dictionnaire.
Alors, dans quel cas est-il indispensable, ce tiret ?
Alors, il l'est quand il distingue le sens d'un mot composé de celui d'un groupe nominal. Prenons des exemples, ce sera plus parlant. Une belle fille, sans trait d'union, n'a rien à voir avec la belle fille, trait d'union, où c'est ici le lien familial dont il est question. Par exemple, il est tout fier de nous présenter sa belle-fille ou sa belle-fille avec trait d'union. Sans trait d'union, il est fier de la beauté de sa fille. Avec, il peut s'agir de la fille de sa nouvelle compagne ou de la femme de son fils, les joies de la langue française. De même, sur le champ, avec deux traits d'union, signifie tout de suite. Tandis que sur le champ, sans aucun trait d'union, désigne un lieu. Un exemple encore, il faut que ce parapente atterrisse sur le champ. Ou alors sur le champ avec trait d'union. Sans trait d'union, il se pose sur un champ. Et avec un trait d'union, il faut qu'il atterrisse tout de suite.
Et dans certains cas, il n'y a pas de trait d'union et pourtant les mots sont bien associés. Lesquels par exemple ?
Alors le coffre-fort, lui, il porte un trait d'union.
Oui.
Mais le château-fort n'en a pas. L'expression « nez à nez » porte un trait d'union, mais pas le pied de nez. Enfin, souvenez-vous que le Moyen-Âge n'a pas de trait d'union. De même, le dessin animé, la bande dessinée, l'opéra bouffe, puisque nous sommes sur Radio Classique, le lieu commun ou la pomme de terre sont libres de tout lien typographique. Aucune trace de trait d'union.
Et comment écrit-on sur mesure ?
Alors ça, c'est une question qu'on m'a posée. La plupart du temps, cette locution s'écrit sans trait d'union.
D'accord.
Exemple, il se fait confectionner un costume sur mesure, sans trait d'union. Elle souhaite une bibliothèque sur mesure, toujours sans trait d'union. Mais on peut aussi écrire sur mesure avec un trait d'union quand il s'agit d'un nom. Exemple, il préfère le sur mesure.
Parlons français. Et si nous parlions français, une chronique sur mesure avec vous, Karine Dijoux. À demain.
À demain.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Du lundi au vendredi, dans la matinale de Radio Classique, Natran vous présente le journal de l'écho à 6h47. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Cuisine Xina présente son offre jusqu'à 100% de la pause offerte.
Ah ça c'est bien.
Profitez-en dès maintenant.
Maintenant parce que là on est en train de préparer un rôti.
Ne t'embête pas, on prend le rôti avec nous.
Xina, des offres qui ont tout compris à la vie. Voir conditions sur xina.fr. Xina.
Deuxième avis ?
Chut, tu fais quoi là ?
Je consulte les astres.
Ah bon ? En plein jour ?
Non, parce que le médecin vient de me dire de me faire opérer, mais bon, j'aimerais bien avoir un deuxième avis quand même.
Et du coup, ils disent quoi les astres ?
Bah d'attendre la nuit, il paraît qu'elle porte conseil.
Bon, ben, attendons.
Attendre des siècles pour obtenir un deuxième avis, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel et deuxièmeavis.fr, obtenez un deuxième avis médical en moins de 7 jours. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
7h26, les coulisses de la politique avec Marcelo Vesfred ce matin du journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Bonjour Marcelo.
Bonjour Marc.
Demain, François Bayrou anime une conférence sur les finances publiques, opération transparence sur les chiffres destinés à commencer à préparer le prochain budget alors que la situation se dégrade.
Oui, ce grand raout, il aura lieu dans une annexe de Matignon avec des élus et des partenaires sociaux. Le Premier ministre y pilotera un comité d'alerte sur les finances publiques, c'est comme ça que ça a été baptisé. Puis il tiendra une conférence de presse. L'objectif, c'est de jouer carte sur table. François Bayrou s'en explique ce matin dans nos colonnes. Je le cite, ma méthode, c'est que tous les Français connaissent les difficultés dans lesquelles nous sommes. Et il ajoute au Premier ministre, on ne peut faire une politique sérieuse qu'avec le soutien des citoyens. Hier, Marc, déjà 3 ministres ont été dépêchés dans les médias pour préparer les esprits. Il faudra, en 2026, faire un effort de 40 milliards d'euros. Voilà ce qu'ils ont martelé.
Alors, le gouvernement dévoilera-t-il, Marcelo, ses pistes d'économie ?
Non, pas à ce stade. Il y aura, confie François Bayrou, 3 mois de mise au point, d'avancer vers des décisions. Fin de citation. En gros, c'est le début d'un long travail en amont du budget 2026. Un budget percuté par l'instabilité internationale et l'effort de réarmement. Ça fait dire aux mauvaises langues que le Premier ministre n'est peut-être pas si pressé que ça, qu'il veut surtout montrer qu'il est aux manettes alors que montent les critiques sur son immobilisme et alors qu'il s'affaisse dans les sondages. Il n'empêche, il y a des pistes qui commencent à circuler.
Alors lesquelles ?
Je vais vous en citer quelques-unes. Oui. D'abord, raboter les niches fiscales, toucher à MaPrimeRénov', faire pression sur les collectivités territoriales, vous en avez parlé tout à l'heure, imposer une année blanche sur les prestations sociales. ou encore augmenter la durée du temps de travail sur l'année. Un député macroniste s'attend même à ce que le gouvernement soit tenté de prolonger la surtaxe sur les grandes entreprises, qui est censée, je le rappelle, être limitée à un an. Lesquelles seront retenues in fine de ces pistes, on verra. Pour l'heure, il s'agit plutôt quand même de déplacer des curseurs plutôt que de relancer des réformes structurelles. Il faut dire que le gouvernement est dans une situation politique précaire. Il dépend de la bienveillance du Parti socialiste pour ne pas être renversé. Alors il fait un pari que résume un pilier de la commission des finances de l'Assemblée, je le cite, « jouer sur l'opinion publique ». Pour ensuite mettre la pression sur les parlementaires.
Les coulisses de la politique, comme chaque matin avec Marcelo Westfred du journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Bonne journée Marcelo.
Bonne journée.
Et à demain. La météo, bonjour Servane de Pastre.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Alors la journée sera globalement couverte.
Oui, avec quelques éclaircies dans une diagonale qui part de Bordeaux à Strasbourg. Dans le sud-est, il y aura quelques averses. Il fera 12 degrés à Brest, 17 à Nice et 20 à Auxerre.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Marc Bourreau.
Et Servane de Pastre pour le journal de 7h30.
Une frappe israélienne a touché le plus grand hôpital de la bande du nord de la bande de Gaza hier. L'OMS appelle à la fin des attaques sur les services de santé. Le groupe Meta, maison mère de Facebook, comparaît devant la justice aujourd'hui à Washington. Un procès qui déterminera l'avenir du groupe. Et puis les sports paralympiques recrutaient de nouveaux talents ce week-end. Et l'engouement est là, porté par le souvenir des JO de Paris 2024.
Après ce journal, les bombes russes plus fortes que les tractations pour un cessez-le-feu, l'écho du monde de Nicolas Tenzer.
Le plus grand hôpital du nord de la bande de Gaza a été visé par une frappe israélienne. Hier, c'était l'un des rares établissements encore en fonction dans l'enclave palestinienne. Israël affirme avoir visé un centre de commandement du Hamas. Cette attaque intervient alors que Tel Aviv a annoncé ce week-end étendre son offensive dans une grande partie du territoire. L'OMS, de son côté, appelle à la fin des attaques sur les services de santé. Lauriane Toulmont.
Il était 2h du matin dimanche lorsque l'alerte a été donnée. 20 minutes plus tard, les bombes sont tombées sur l'hôpital Al-Ahli. Dans ce laps de temps très court, les 88 patients ont été évacués dans la rue. Privés d'oxygène, un enfant blessé à la tête est décédé lors de l'évacuation. Quelques heures plus tard, Maher Ayed s'est rendu sur place pour constater les dégâts. C'est le chef du service de chirurgie de l'hôpital.
Le laboratoire de l'hôpital a été complètement détruit, la pharmacie aussi. Et comme il reste très peu d'hôpitaux à Gaza, qui fonctionnent avec une capacité d'accueil très limitée, certains de nos patients sont revenus dans notre hôpital. Le bâtiment principal est encore intact, mais on ne pourra plus accueillir de nouveaux patients parce que le service des urgences a été endommagé.
Ce sont 300 à 400 personnes par jour qui ne seront plus soignées en urgence, regrette le docteur Fadel Naïm, directeur par intérim de l'hôpital.
Je suis à la fois triste et en colère. On ne peut plus aider les gens, je me sens impuissant. C'est peut-être la cinquième fois qu'on est visé. La première, c'était au début de la guerre, en octobre 2023. À l'époque, on pensait que ce n'était pas normal, que c'était une exception qu'Israël vise des hôpitaux. Maintenant, c'est la règle.
Depuis le début de la guerre, 33 des 36 hôpitaux de Gaza ont été touchés, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui recense en tout 670 attaques israéliennes contre les services de santé palestiniens.
Lauriane Toulmont. En Ukraine, une frappe russe sur la ville de Soumy au nord-est du pays a fait au moins 34 morts et plus d'une centaine de blessés hier. Ce bombardement est le plus meurtrier depuis plusieurs mois. Pour l'administration américaine, c'est un rappel de la nécessité de négocier et de mettre fin à la guerre. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé Donald Trump à se rendre en Ukraine afin d'y constater les conséquences de l'agression russe. On y revient dans moins de 10 minutes dans l'écho du monde avec Nicolas Tenzer. Donald Trump qui annonce de nouveaux droits de douane cette semaine. Il devrait porter sur les semi-conducteurs entrant aux États-Unis. Le président américain met en garde aucun pays n'est tiré d'affaire, surtout pas la Chine. Les produits chinois sont taxés à 145% depuis la semaine dernière. Le protectionnisme ne mène nulle part, avertit Pékin. Les exportations chinoises vers les États-Unis étaient en hausse de 9% au mois de mars.
7h33 sur Radio Classique, le groupe Meta devant la justice, aujourd'hui à Washington.
La maison mère de Facebook est accusée d'avoir racheté deux applications, Instagram et WhatsApp, afin d'étouffer la concurrence. En cas de condamnation, le groupe pourrait se voir amputé de l'une de ces deux entreprises, voire des deux, Eric Kuoch.
S'ils grandissent trop, ils pourraient nous perturber. On pourrait s'en prendre à une ou deux de ces plateformes. Qu'en penses-tu ? C'est ce courriel envoyé par Mark Zuckerberg au directeur financier de Meta le 5 avril 2012 qui a attiré les foudres de l'administration américaine. Car 4 jours plus tard, Facebook rachetait Instagram pour 1 milliard de dollars. Pour l'antitrust, le gendarme américain de la concurrence, cela montre que l'entreprise cherchait à asseoir la suprématie de Facebook en avalant tous ses challengers. Si le groupe est reconnu coupable, la justice pourrait ordonner la vente de l'une des plateformes, voire des deux. Peu probable, selon Maître Étienne Papin, avocat spécialiste du numérique.
Jamais dans le domaine du numérique, les GAFAM, une décision de démantèlement n'a été prise. Ces entreprises ont acquis un pouvoir qui dépasse le pouvoir économique et c'est aussi un pouvoir politique. Compte tenu de l'orientation de la nouvelle administration américaine, il serait extrêmement surprenant qu'une décision de démantèlement d'un outil de pouvoir soit prise par cette administration.
Dans un dossier similaire, Google a été condamné en octobre pour son monopole sur les moteurs de recherche. Peine prononcée, une amende pas encore déterminée et une obligation de changement de pratique, pas vraiment de nature à faire vaciller les géants de la tech.
La France devra réaliser un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros, c'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'économie, Éric Lombard. L'objectif, revenir à un déficit public de 4,6% du PIB à l'horizon 2026. Éric Lombard décrit un état d'alerte budgétaire, il précise que ces efforts seront réalisés grâce à la croissance ou sur des réductions de dépenses publiques. 3000 places de prison dans des préfabriqués, c'est l'une des pistes du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour lutter contre la surpopulation carcérale. Le premier établissement de la sorte devrait sortir de terre en 2026 dans l'Aube. Gérald Darmanin doit rencontrer aujourd'hui les industriels concernés selon le Figaro. Les communes et les assureurs sont autour de la table aujourd'hui pour le Roclore de l'assurabilité des territoires. Une journée d'échange pilotée par le Premier ministre. Un plan d'action sera dévoilé alors que 1500 communes sont sans assurance depuis le début de l'année selon l'Association des maires de France. Cette réunion est un soulagement pour Sébastien Ollaran, maire de Breil-sur-Roya. Sa commune a été très durement touchée par la tempête Alex en 2020.
Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais ça constitue déjà une étape suite à la tempête Alex. Malgré tous nos efforts, on n'a pas réussi à trouver un assureur qui a accepté de couvrir Breil-sur-Roya. Début 2025, l'État a obligé 5 assureurs à se regrouper pour assurer notre commune. Alors, on est aujourd'hui assuré, mais très mal assuré, puisqu'on a des franchises qui sont très hautes. Pour les catastrophes naturelles, par exemple, on a 500 000 euros de franchise, alors qu'avant, c'était 10%. On a beaucoup de risques qui ne sont plus couverts et on paye 8 fois plus que ce qu'on payait avant, puisque notre cotisation est passée de 15 000 à 100 000 euros, ce qui pèse très lourd sur le budget de la commune.
Sébastien Ollaran au micro de Marine Salaville. Une vingtaine de soignants attaquent en justice les ministres Catherine Vautrin, Elisabeth Borne et Yannick Neuder. Selon le journal Le Monde, une plainte a été déposée pour harcèlement moral et homicides involontaires devant la Cour de justice de la République. Les plaignants dénoncent notamment le suicide de leurs proches et le harcèlement qu'ils subissent. 120 renforts militaires sont déployés à La Réunion aujourd'hui pour faire face à l'épidémie de chikungunya. Ils devront notamment participer aux opérations de nettoyage des communes les plus touchées par les moustiques. Plus de 6000 nouveaux cas ont été recensés la semaine dernière.
7h37 sur Radio Classique. C'est aujourd'hui que doivent être lancés les projets de construction pour les JO d'hiver 2030 dans les Alpes françaises.
Notamment ceux qui concernent les villages olympiques. Le nom du directeur général du comité d'organisation doit aussi être dévoilé. Il pourrait s'agir de l'ancien directeur du Paris Mutuel Urbain, Cyril Linette. Et la barre est haute, le souvenir des JO de cet été est encore très présent. Ce week-end, le comité paralympique français organisait un programme de détection afin d'orienter des sportifs vers les disciplines qui leur correspondent. Ça s'appelle La Relève. Lucie Dupressoir, vous y étiez.
Allez. Pas mal. 8 mètres, meilleur score du jour.
À la première place au lancer de ballon, Rémi, amputé de la jambe droite après un accident de moto en 2022.
Impressionné par ma performance, je m'y attendais pas, la technique m'est venue naturellement.
S'il est ici, c'est grâce aux Jeux Paralympiques de Paris.
Je l'avais dans le coin de la tête pendant les JO, parce que c'était à ma période où je faisais pas mal de sport après ma sortie de centre de rééducation. Ça a multiplié un peu l'envie, quoi.
Comme Cécile, qui souffre de séquelles physiques après un cancer, elle a suivi les Jeux en tribune, elle se verrait bien désormais sur les terrains.
C'était quand même hors norme. Ça donne un semblant d'espoir pour continuer la compétition autrement, voir nous mettre des paillettes dans les yeux et aller au jeu para, qui sait.
Los Angeles.
Ouais, ça serait le graal ultime. En tout cas, j'ai envie de m'en donner les moyens.
L'effet Paris 2024, c'est 28 participants pour cette édition de la relève, contre 18 l'année dernière. Mais les profils manquent encore de variété, regrette Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique.
On est peu présent sur le sport féminin, sur aussi les formes de handicap sévères. Donc on a un enjeu de travail à faire à moyen terme pour aussi arriver à orienter ces publics vers la compétition paralympique.
Même si tous ne rejoindront pas la délégation française, seulement 12 athlètes recrutés lors des précédentes détections ont participé aux Jeux paralympiques. Un reportage de Lucie Dupressoir.
Tout en musique, hein, cette fin de journal, ça 22 passe. On vous retrouve à 8h30. Dans un instant, Vladimir Poutine bombarde l'Ukraine et dans le même temps, la diplomatie américaine. L'écho du monde de Nicolas Tenzer, 7h39 sur Radio Classique.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
Attention, événement! Radio Classique vous attend pour son grand concert d'été. Un festival d'émotions avec Strauss, Mozart, Bizet, Verdi, Beethoven. Venez écouter le meilleur du classique avec la soprano Angélique Boudeville, la pianiste Chani Di Luca et l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par Marc Leroy-Calatayoud. Le grand concert d'été de Radio Classique, animé par Jean-Michel Duez, les 20 et 21 juin au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservez dès maintenant au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechampselysees.fr.
Retrouvez le grand concert d'été de Radio Classique avec Échiquier Gestion Privée. Échiquier Gestion Privée, ensemble, faisons grandir votre patrimoine.
Tout de suite, la Minute des Épargnants. Avec l'affaire.
Gérard Beckerman, bonjour. Vous venez de créer Affaire Génération. En quoi ce contrat d'assurance vie ouvre-t-il de nouveaux horizons ?
Nous avons été les premiers en 1976 avec le contrat monosupport qui deviendra le multisupport. Et nous voulons, une fois de plus, être l'étendard avec Affaire Génération. C'est une offre qui prime la fidélité, puisque l'adhérent qui restera engagé sur une période de 8 ans verra sa rémunération de l'assurance vie à l'affaire valorisée une seconde fois par une prime. Et Affaire Génération aura deux avantages. Nous profitons des opportunités avec des taux très élevés en ce moment, 3, 3,5 et parfois 4 %. C'est une bonne rémunération, nous primons la fidélité et nous maintenons les frais parmi les plus bas du marché.
Merci Gérard Beckerman.
Ensemble, construisons une génération d'avenir. Rejoignez l'Association française d'épargne et de retraite. Rendez-vous sur affaire.fr, A-F-E-R.fr.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
7h41, l'écho du monde avec Nicolas Tenzer. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marc.
Un crime de guerre pour l'Allemagne, un bombardement horrible pour Donald Trump cette nuit. Condamnation unanime en Occident après l'attaque russe hier contre la ville ukrainienne de Soumy, au moins 34 morts. Un mois après l'acceptation de la trêve par l'Ukraine, Poutine continue de saper les efforts diplomatiques et en particulier américains, Nicolas.
Oui, la barbarie russe comme presque chaque jour depuis plus de 3 ans. Poutine, comme à son habitude, cherche à gagner du temps en assassinant délibérément des civils. Il ne veut pas entendre parler de paix, ni même de trêve. Il se prépare aussi à une offensive de printemps, selon les renseignements ukrainiens. Quant aux efforts américains, soyons directs, Moscou est d'autant moins prête à céder que l'administration Trump reprend une à une les exigences du Kremlin. Ainsi, l'émissaire américain Steve Witkoff, qui a rencontré Poutine vendredi, a-t-il proposé de concéder les 4 régions d'Ukraine officiellement et illégalement annexées par la Russie, qu'elle ne contrôle d'ailleurs pas entièrement, Donetsk, Luhansk, Zaporijja et Kherson, sans parler de la Crimée. L'envoyé spécial de Trump pour l'Ukraine, le général Keith Kellogg, dans un entretien au Times de Londres, proposait de découper l'Ukraine en zones de contrôle, l'une par l'Europe, la deuxième par l'Ukraine et la troisième par la Russie. Dans son démenti, publié sur le réseau X, il ne niait cependant pas prévoir qu'une partie de l'Ukraine serait, selon son plan, aux mains des Russes, refusant de mentionner sa souveraineté et son intégrité territoriale. Cela serait accepter le retour des zones d'influence bannies par la Charte de Paris de 1990. De plus, dans ces régions occupées, déportations d'enfants, tortures, exécutions sommaires et viols de masse sont monnaie courante. L'administration Trump n'en a cure.
Et pourtant, Nicolas, Trump a montré la semaine dernière quelques signes signe d'impatience envers la Russie.
Oui, mais tout en renvoyant dos à dos Moscou et Kiev, l'agresseur et l'agressé. Mmh. Si Trump était sérieux dans son impatience envers Moscou, il disposerait pourtant des moyens d'agir. Sanctions secondaires envers les pays qui achètent encore du pétrole russe et surtout livraison d'armes massives à l'Ukraine. Il ne l'envisage pas, cherchant même à prendre le contrôle des oléoducs passant par l'Ukraine et les minerais critiques ukrainiens. Il est aussi frappant que dans l'entretien au Times, Kellogg ait comparé la division de l'Ukraine au Berlin et à l'Allemagne post-Seconde Guerre mondiale. Cette comparaison était d'autant plus choquante que l'Allemagne nazie avait été défaite et était l'agresseur. Sur ces deux points, ce n'est pas le cas de l'Ukraine. L'analogie de Kellogg fait plus penser au dépeçage de la Pologne par le pacte Molotov-Ribbentrop signé à Moscou le 23 août 1939. Trump est en fait mis en échec par Poutine, mais il ne veut pas le reconnaître et demain sans doute, il continuera à blâmer le président Zelensky pour ne pas avoir accepté la soumission de son pays. La collusion de Trump et de Poutine signe la faiblesse de l'Amérique. On est loin du « je vais régler le problème en un jour » affirmé par le premier lors de sa campagne.
Et les alliés américains, ils ont le même jour tenu une réunion à Bruxelles. Ça va dans le bon sens ?
Oui et non, car une promesse supplémentaire de 21 milliards d'euros de livraison d'armes à l'Ukraine par l'Europe a été émise. Oui aussi, car plusieurs pays, dont la France, quoique une minorité, se sont mis d'accord pour envoyer des forces pour garantir la sécurité future de l'Ukraine. Oui, car la résolution de renforcer l'armée ukrainienne dans la durée a été réaffirmée, ainsi que le refus de toute démilitarisation de l'Ukraine demandée par Moscou. Mais aussi, non. Car manque toujours, après plus de 3 ans de guerre, des résolutions d'actions immédiates. Les Européens en sont encore à parler de mise en place prochaine d'une planification, ce qui est pour le moins faible. Certains font mine d'espérer encore un filet de sécurité américain, le backstop en anglais, ce dont Washington ne veut pas entendre parler. L'Amérique s'est d'ailleurs désengagée de la présidence du groupe de contact, dit groupe de Rammstein. On est aussi très loin d'un plan précis quant à l'implantation et la doctrine d'engagement des pays membres de la coalition des volontaires. Après la frappe sur Soumy, Emmanuel Macron a parlé de mesures fortes. On les attend d'urgence. Les Européens reconnaissent que Poutine veut continuer la guerre. Peut-être serait-il temps pour eux de cesser d'émettre les mots diplomatiques, mais vides, de négociations et d'accords de paix impossibles avec Moscou et d'agir. Cela serait du réalisme.
L'écho du monde avec Nicolas Tenzer. Bonne journée Nicolas, à demain. On reste dans le jeu diplomatique, dans le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre. L'ONU et les personnalités de la société civile. 7h45 sur Radio Classique.
Les ETI sont essentiels dans la transformation durable de nos vies. Comment ? Réponse avec Grâce à nos ETI, chaque mardi à 7h29 avec Fabrice Lundy sur Radio Classique. Un programme proposé par KPMG, cabinet leader de l'audit et du conseil en France, engagé à agir pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable.
Cuisine Ixina présente, la cuisine à 2990 euros avec le plan 3D offert.
Super ce plan, on se projette bien là.
Ouais, je te vois déjà ranger la vaisselle.
Ah, on doit pas avoir le même plan.
Ixina, des offres qui ont tout compris à la vie. Voir conditions sur Ixina.fr.
Radio Classique et la salle Gaveau présente Ravel ou le voyage imaginaire. En compagnie de Franck Ferrand et du pianiste Jean-Frédéric Neuburger, venez vivre entre récits et musique toute la féerie et l'émotion envoûtante de l'univers de Maurice Ravel. Ravel ou le voyage imaginaire. Avec Franck Ferrand et Jean-Frédéric Neuburger, un concert Radio Classique mercredi 4 juin, salle Gaveau à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur salgavo.com.
J'ai fait une tête de robot à partir d'un carton Amazon. Je l'ai peint en argent et papa m'a même aidé.
Chez Amazon, nous utilisons davantage de sacs en papier pour nos livraisons.
Et maintenant, j'ai fait une montgolfière en papier. J'ai peint toutes les couleurs et j'ai fait une petite nacelle marron et un chien qui...
C'est l'une des solutions qui nous ont permis de réduire le poids de nos emballages de plus de 40% depuis 2015. Ce qui est en fait mieux pour s'amuser quand on y pense.
Maman, où sont les ciseaux ?
Pour en savoir plus, rendez-vous sur aboutamazon.fr/notreplanète.
Radio Classique, le journal imprévisible.
Avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
L'ONU n'est pas réservée qu'aux responsables politiques. Elle accueille régulièrement aussi des membres de la société civile.
Oui, comme la jeune activiste Malala Yousafzai, venue le jour de ses 16 ans défendre l'éducation des filles après une tentative d'assassinat.
Le 19 octobre 2012, les talibans m'ont tiré une balle dans la tête, à la gauche de mon front. Ils ont tiré sur mes amis également. Ils pensaient que les coups de feu nous réduiraient au silence, mais ils ont échoué.
Malala a pris la parole en 2013, 6 ans avant une autre jeune activiste, Greta Thunberg.
Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides de sens. Et encore, je fais partie des chanceux. Il y a des gens qui souffrent, des gens meurent. Comment osez-vous ?
On s'en souvient de cette phrase.
On s'en souvient. Et pour être fidèle à son engagement, on s'en souvient aussi, elle avait dû commencer son voyage presque un mois et demi avant son intervention.
Greta Thunberg a mis le cap sur New York City. La jeune égérie de la lutte contre le réchauffement climatique a quitté ce mercredi le port de Plymouth en Angleterre. Une traversée zéro carbone qui trouve malgré tout ses détracteurs.
Là, c'est une toute autre ambiance. Ouais. Ces jeunes adultes qui disent « let's go », ce sont les membres du groupe coréen BTS qui embarquent dans leur jet pour New York. D'accord. Son meneur y prononce un discours, lui, sur l'acceptation de soi. « I have many faults. » J'ai beaucoup de défauts, dit-il, et encore plus de peur, mais j'apprends à m'aimer de plus en plus petit à petit.
On parle bien de la planète comme ça, en tout cas, des enjeux internationaux.
Voilà, bah, non mais chacun sa cause. Et BTS a mis son immense popularité à travers le monde au service de l'acceptation de soi, mais aussi au service de la notoriété de l'ONU, que certains prennent pour un machin. Le clip de cette chanson... Il a été tourné au siège de l'ONU, d'accord, à New York. On voit le jeune chanteur qui sort de la tribune et puis ils arrivent, ils dansent et ils finissent les sets sur le parvis. Alors, immanquablement, derrière ces belles images, derrière ces beaux discours, vient une question. Est-ce que ça sert à quelque chose ?
The child shall be entitled from birth to a name and nationality.
Chaque enfant a le droit à la naissance, à un nom et à une nationalité. Vous aurez peut-être reconnu la voix d'Audrey Hepburn.
Audrey Hepburn, oui.
L'actrice ambassadrice de l'UNICEF s'est rendue dans une cinquantaine de pays défavorisés pour mettre en lumière la situation sur place. Voilà comment elle définissait sa mission.
C'est d'y aller sur place, voir, sentir, et revenir et raconter. Parce que même si la compassion dans le monde est énorme, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. C'est pour ça qu'on dépend tellement de vous, le média, qui vraiment, c'est essentiel pour nous. C'est une question de vie et de mort, souvent.
Autre actrice qui a réussi à se faire entendre des années après Audrey Hepburn, Emma Watson. Ses deux compagnons de la saga Harry Potter ont choisi de défendre des causes au Royaume-Uni. Emma Watson, elle, a eu un retentissement mondial avec ses propos à l'ONU.
À 18 ans, j'ai décidé que j'étais féministe. Cela me semblait normal. Mais au cours de mes recherches, j'ai réalisé que ce terme était devenu impopulaire. Les femmes refusent de s'identifier comme féministes. Pourquoi ce terme est-il devenu si dérangeant ?
Après avoir entendu cette question, Malala Yousafzai a décidé de se présenter comme féministe. Discours bien reçu, donc au pluriel, sur la défense des droits des femmes et des enfants. Mais sur l'environnement, 2014, discours de Leonardo DiCaprio.
Chers dirigeants du monde, mon métier est de faire semblant, pas vous. C'est désormais à vous de répondre aux plus grands défis de l'humanité. Nous vous supplions de le faire avec courage et honnêteté. Merci.
Après ce discours, il a tourné dans Don't Look Up, où comment deux scientifiques tentent de mettre en garde le monde contre une comète mortelle sans que personne n'écoute. Manifestement, son discours à l'ONU n'avait pas suffi.
Le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre. Augustin, vous retrouvez à 8h30 pour la revue de presse. Dans un instant, cap sur le Japon et son exposition universelle, le décryptage écho de David Barou. Radio Classique, 7h52.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Chaque jour dans la matinale de Radio Classique, retrouvez comment j'ai réussi à 6h15 avec Natran. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Aesio Mutuel présente.
Hé, hey, trop de boulot, tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte ?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur activité et d'ateliers de prévention sur mesure pour assurer leur bien-être au travail et au quotidien. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Contactez votre conseiller dès maintenant. Renseignements sur aesio.fr.
Françoise, donatrice à la Fondation du patrimoine.
Notre patrimoine est en danger. Nos églises, nos petits théâtres, nos moulins, nos lavoirs disparaissent de nos paysages. Alors pour que nos enfants connaissent ces merveilles, j'ai fait un legs à la Fondation du patrimoine. J'aide ainsi son réseau de bénévoles, partout en France, à sauver cet héritage, témoin de notre histoire.
Contactez la Fondation du patrimoine au 09 80 80 99 98 ou sur fondation-patrimoine.org.
Renault.
Tous les hybrides ne se valent pas. Choisir la motorisation Renault Full Hybrid E-Tech sans recharge, c'est choisir la technologie Full Hybrid numéro 1 des ventes en France. C'est jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein. C'est rouler jusqu'à 130 km/h en électrique et faire jusqu'à 40% d'économie de carburant. C'est une gamme complète de 7 modèles Renault Full Hybrid E-Tech, comme par exemple Clio, Symbiose, Austral ou Rafale.
En 2024, source 3 Adata, selon version et conduite, économie versus moteur thermique, voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Waouh ! Pour la troisième fois consécutive, vous avez choisi Action comme enseigne préférée des Français. Merci pour votre confiance et à bientôt dans nos magasins. Action, petit prix, grand sourire.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
7h54, le décryptage éco avec David Barou. Konnichiwa, David.
Konnichiwa, Marc.
Chat sur le Japon ce matin. Ouais. L'exposition universelle 2025 a été inaugurée par l'empereur du Japon en personne hier. Que faut-il attendre de ce rendez-vous, David?
Alors, c'est sûr, les expos universelles captent moins l'attention qu'à la fin du 19e siècle. Ouais. Quand le Paris de la Tour Eiffel accueillait en 1889 son exposition, c'était l'occasion pour tous les Parisiens de visiter des pavillons nationaux mettant en avant les innovations de la révolution industrielle venue du monde entier. Le monde venait à vous à une époque où on ne pouvait pas prendre un avion pour aller à l'autre bout de la planète et où on ne pouvait pas plus cliquer sur Internet pour s'informer. Aujourd'hui, certains se demandent à quoi cela sert de dépenser presque 2 milliards d'euros pour construire des pavillons qui ne dureront que 6 mois et pour mettre en avant des choses que presque tout le monde connaît. Mais moi, qui ai le privilège de revenir d'Osaka, je vous dirais que ces expos conservent quand même un véritable intérêt.
Alors dites-nous, David, quel intérêt justement?
Déjà, une expo, c'est l'occasion de mettre en avant des villes que l'on connaît moins. Les précédentes étaient à Dubaï et à Shanghai. La prochaine sera à Riyad. Ça nous dit quelque chose d'un monde qui change. Nous, Européens, on peut bien sûr regarder de haut ce nouveau monde, mais en fait, ce serait méprisant. La deuxième chose, c'est que visuellement, les expos sont souvent très réussis là, à Osaka. Le terrain de jeu, c'est une île artificielle construite dans la baie d'Osaka. Les Japonais ont construit aussi un anneau de 2 km de long à 20 mètres de haut, une sorte de construction en capla géante. Mmh. Et au sol, on y voit du coup des dizaines de pavillons nationaux qui sont de très très jolis gestes architecturaux. On a au total 160 pays qui mettent en avant ce dont ils sont le plus fiers et les Japonais espèrent quand même qu'autour de 25 millions de personnes vont venir visiter cette expo qui est une sorte de parc à thème temporaire à vocation avant tout culturelle.
Et pour la France, quel est l'intérêt d'une telle expo ?
La France est très présente sur cette expo. Notre pavillon est pratiquement le plus visible, juste à l'entrée du site, à côté du pavillon américain. Pour la France, c'est une bonne occasion de mettre en avant notre savoir-faire. On vit dans un monde du soft power. On s'est bien rendu compte lors des Jeux Olympiques de Paris que l'image, ça comptait. L'Allemagne est connue pour ses voitures, les États-Unis pour ses géants de la technologie. Nous, c'est notre gastronomie, nos paysages touristiques, nos artistes qui ont marqué notre histoire et nos marques de luxe qui font notre rayonnement. Et dans ce pavillon, c'est cela qu'on met en avant. AXA et LVMH, qui sont les deux entreprises françaises les plus présentes au Japon, ont contribué au financement et ont mis en avant la danse, les œuvres de Rodin ou des créateurs comme Christian Dior ou Louis Vuitton, qui sont des stars dans l'archipel. En fait, c'est une opération d'image et une image, il faut la cultiver et la faire vivre et c'est ce que la France fait aujourd'hui et pour 6 mois à Osaka.
Le décryptage éco de David Barou. Il faudra nous raconter un jour, David Barou, votre voyage à Osaka tout de même. Bonne journée, David.
Bonne journée.
Et à demain, 7h57, on lance la machine à remonter le temps de Radio Classique avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Alors nous nous retrouvons pour une sortie littéraire ce matin.
14 avril 1802, sortait dans toutes les bonnes librairies « Le génie du christianisme ou beauté de la religion chrétienne ». C'était bien sûr un livre d'un écrivain de 34 ans rendu célèbre par Atala et René. Il s'appelait François René de Chateaubriand. Il publie cette apologie de la religion quatre jours seulement après le rétablissement officiel du culte catholique en France. C'était le concordat qui avait été signé par Bonaparte et le pape Pie VII. C'est ce génie du christianisme qui fait que Chateaubriand va se faire connaître encore plus en France. Il écrit ça après la mort de sa mère et de sa sœur, qui l'ont bouleversé. Et puis, il l'écrit aussi dans le contexte que vous savez, celui de la Révolution française et de la philosophie des Lumières qui avait éclipsé cette religion. Alors, Chateaubriand s'est mis en tête d'écrire ce livre pour défendre la beauté du christianisme. Je le cite, « De toutes les religions qui ont jamais existé, la religion chrétienne est la plus poétique, la plus humaine, la plus favorable à la liberté, aux arts et aux lettres. Le monde moderne lui doit tout, depuis l'agriculture jusqu'aux sciences abstraites, depuis les hospices bâtis pour les malheureux, jusqu'au temple élevé par Michel-Ange et décoré par Raphaël. »
Le 14 avril 1802, avec vous, Franck Ferrand. Merci beaucoup et à tout à l'heure, 9h. La météo, Virginie Fulpin, des nuages assez nombreux, on peut dire ça, hein, malheureusement.
Partout ce matin, à part dans le sud-ouest et le nord-est, de la pluie près de la Méditerranée. Les averses arrivent sur la façade atlantique dans l'après-midi et ailleurs, une alternance de nuages et d'éclaircies. Il fait plutôt doux, 7 degrés au plus frais dans les Ardennes et le centre ce matin, jusqu'à 15 en Corse. Cet après-midi, on attend 12 à Brest, 16 à Montpellier, 20 à Paris et Limoges, 22 à Strasbourg.
Carrefour. Quand vous me dites « j'ai prévu deux paniers pour la chasse aux œufs et je compte bien les remplir », eh bien je vous réponds que pour Pâques, il y a 8 euros offerts en bon d'achat tous les 20 euros d'achat sur tous les chocolats de Pâques, même en promotion. Et c'est dès vendredi et jusqu'à lundi dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors tablette de chocolat limitée à 3 bons d'achat par foyer valable du 22 avril au 4 mai, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.